الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 29 من شهر شعبان عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ فيه قراءة رسالة مباركة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المسمى برسالة ابن القيم أو بالرسالة التبوكية. Nous sommes le samedi 4 mai 2019 et nous voici réunis pour entamer l'étude d'un écrit très bénéfique de l'auteur l'illustre imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé Ar-Risalatu Tabukiyya, la lettre de Tabouk. Et cet écrit que nous allons tenter d'étudier, Inch'Allah ta'ala, est le regroupement de conseils très précieux, dirigés par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala à ses co-religionnaires, des frères et chers amis en islam qu'il a conseillé. Et dans cet écrit, rahimahullah, il a parlé de nombreuses choses, notamment de l'entraide dans la piété et l'obéissance d'Allah et l'interdiction de s'entraider dans le contraire de cela. C'est sur ce verset-là qui traite ce sujet, que toute cette risala, tout cet écrit a été basé. Et cet écrit intitulé Ar-Risalatu At-Tabukiyya, la lettre de Tabouk, a été appelé de cette façon car elle a été rédigée par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah alors qu'il était à Tabouk. Tabouk est un endroit de la région d'Arabie. Et ceci en l'an 733 de l'Hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 8 du mois égirien de Al-Muharram, alors qu'il était de retour du Hajj, rahimahullah. C'était donc en voyage que l'auteur, rahimahullah, a rédigé cet écrit contenant ses précieux et nobles conseils. C'est pour cette raison que l'écrit a été intitulé « La lettre de Tabouk ». À l'image de beaucoup d'autres écrits de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et son noble professeur l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui ont donné à leurs écrits les noms des endroits où ils les ont écrits ou alors des endroits où vivaient ceux qui leur ont posé ces questions à cause desquelles ils ont répondu par ces écrits. Comme le livre que vous connaissez, Al-Aqidatul Wasitiyya. C'est une question à la base que lui a posé un homme dénommé Radiyuddin Al-Wasiti, un homme de la région de Wasit, qui a adressé une demande à l'imam Ibn Taymiyyah de lui rédiger la croyance des musulmans authentiques. L'imam a écrit, et ce nom a été celui, on va dire, de la ville où il a été écrit. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah était connu comme étant quelqu'un qui passait son temps, notamment dans ses voyages, à écrire, à diriger la communauté, à la conseiller autant que possible. Son livre très connu, Zadul Ma'ad, fi hadi khayr al-ibad, les provisions pour le retour, c'est-à-dire le retour à Allah, dans la guidée du meilleur des serviteurs. Ce livre qui aujourd'hui est fait de 4 volumes, Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a écrit comme ça en voyage, rahimahullah ta'ala, et cela te montre plusieurs choses. Premièrement, la motivation de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et l'exploitation de tout son temps, puisqu'en voyage il va écrire des livres que nous autres aujourd'hui allons étudier. Et nous allons même nous déplacer pour écouter le contenu de ces écrits qu'il a rédigés alors qu'il voyageait. rahimahullahu ta'ala. Ainsi, il ne perdait pas son temps. Et les conditions du voyage de l'époque n'étaient pas identiques à celles de ce jour, où l'on voyage en avion, dans la climatisation et dans le confort, pour se plaindre après d'ailleurs. Mais lui et eux, ils voyageaient sur le dos de chameaux dans des déserts. Peut-être qu'il y avait des jours qu'ils passaient sans manger ou sans assez manger ou boire. Et pourtant, voilà ce qu'ils faisaient de ce temps-là, rahimahumullah, et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Également, parmi ce que l'on peut comprendre ou tirer comme leçon, c'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal et ses fruits. Et regardez l'imam, rahimahullah, qui va rédiger un écrit il y a tant d'années, en l'an 733 de l'Hégire, et nous sommes en l'an 1440, c'est-à-dire qu'il y a plus de 7 siècles. Vous entendez très bien que cet écrit a été rédigé. 7 siècles après, il l'a écrit à Tabouk et l'a envoyé à des frères en Allah qui étaient dans la région du Cham, vers la Syrie. Nous voici 7 siècles après en France, en train d'étudier le contenu de cet écrit. Ça te montre la baraka qu'Allah Azza wa Jal donne. À la base, il va conseiller quelqu'un et aujourd'hui, tu vas prendre ce conseil comme s'il t'était dirigé. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a vraiment accordé ses faveurs à ses savants de la sunna et de l'islam. Dans cet écrit, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah se base sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan, wa attaqullah, inna allaha shadidu al-iqab. C'est-à-dire, et entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, certes Allah est dur en châtiment. Cette traduction n'est qu'approximative. Je le dis bien. Mais c'est avec l'étude de cet écrit que l'on va approfondir ou tenter d'approfondir nos connaissances ou notre compréhension de ce verset « Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala ». Ainsi, l'on voit le devoir que les croyants ont de s'entraider dans ce qui plaît à Allah et de ne pas s'entraider dans ce qui déplaît à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et chaque personne a l'obligation de connaître quel est le domaine où il a l'ordre de s'entraider avec autrui et l'autre domaine où il a l'interdiction de s'entraider avec autrui. C'est donc un conseil fraternel de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il va aussi parler dans cet écrit des provisions que doit avoir avec lui celui qui voyage vers Allah Azza wa Jal. Comme vous le savez, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous voilà à voyager vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces jours qui passent, ces moments, ces années ne sont que des étapes que nous franchissons au fur et à mesure avant d'arriver à la dernière, celle qui nous amènera à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous espérons avoir assez de provisions pour le rencontrer ce jour-là, et qu'il nous pardonne nos fautes et nos péchés. Et tout voyageur qui entreprend un voyage ou qui va traverser une longue distance a fortement besoin de prendre avec lui des provisions et de connaître quelles sont les provisions dont il a besoin. Les gens sont donc dans le grand besoin de connaître ce genre d'écrit et leur contenu. Surtout dans cette époque, comme dit le Cheikh Abdelrazzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, Hafidahullah, cette époque où les moyens de communication se sont multipliés, à tel point que les gens les utilisent soit pour l'entraide dans le bien, ça sera donc un grand bien pour les gens, soit pour l'entraide dans le mal. Avec ces nouveaux moyens de communication et ces réseaux sociaux, le mal se propage à une vitesse extraordinaire, tout comme le bien peut se propager de façon très étonnante, dans une rapidité sans pareil. Tout individu qui recherche le savoir parmi les gens de l'islam a besoin de lire ce genre d'écrit, dans lequel il va montrer la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre le salut, pour la réussite. Il va aussi parler de l'importance de la méditation du Coran, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a rédigé cet écrit, rahimahullah, après avoir, en premier lieu, rédigé quelques vers de poésie où il a adressé des conseils à ses frères, et après avoir envoyé ces vers de poésie, il a rédigé cet écrit, Ar-Risalatut Tabukiyya, la lettre de Tabouk, qu'il a envoyé à des amis à lui, des frères en Allah, situés dans la région du Sham, comme nous l'avions dit, vers la Syrie. Si ce n'est que là, je vous disais que l'imam Ibn al-Qayyim avait pour habitude d'écrire pour des causes. On lui pose une question, il répond par un écrit. Quant à celui-ci, Risalatut Tabukiyya, la lettre de Tabouk, il n'a pas une cause qui l'a poussé à écrire. C'est-à-dire, personne n'est venu lui poser une question afin qu'il réponde en écrivant cette lettre. Donc, il a écrit un conseil et l'a dirigé et adressé à ses frères en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, je vais commencer à lire l'écrit. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل نعم. Je vais passer directement à la parole de l'imam Ibn Qayyim رحمه الله. فصل. وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه يقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Après avoir loué Allah par les louanges dont il est digne subhanahu wa ta'ala et prié sur son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم le sceau des prophètes et messagers, certes, Allah exalté soit-il, a dit dans son livre, le sens du verset, et entraidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et faites preuve de piété envers Allah. Certes, Allah est dur en châtiment. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des ordres dont nous allons détailler les sens, incha'Allah. Mais l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a débuté son écrit par la louange qu'il a adressée à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit par toutes les louanges desquelles il est digne, subhanahu. Et Allah est digne d'être loué. Toutes les louanges lui reviennent de droit. Et nous devons savoir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est loué pour deux raisons, qui sont les suivantes. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala est loué pour la perfection de ses noms et attributs. Lorsque l'on prend connaissance de la perfection d'Allah, de la beauté, de la grandeur, de l'immensité, tout simplement de la perfection de tous ses noms et tous ses attributs, subhanahu wa ta'ala, nous lui adressons toutes nos louanges pour cela. Il est loué pour sa perfection. Azza wa Jal. La deuxième raison pour laquelle il est loué, al-ihsanu ila khalqih, sa bienfaisance envers ses créatures. Allah Azza wa Jal est loué en raison de la bienfaisance dont il fait preuve à l'égard de ses créatures, subhanahu wa ta'ala, tous les bienfaits par lesquels il nous comble. Pour cela, il mérite nos louanges, subhanahu wa ta'ala. Et si vous méditez, chers frères, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et même la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez très clairement que chaque fois que mention de la louange est faite, ce qui vient après ou avant en d'autres termes, ce pourquoi il a été loué ou il s'est loué, c'est soit une perfection à lui, soit un bienfait venant de lui. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Puis qu'est-ce qu'il va dire? Il va citer une de ses perfections qui est Rabbil Alameen, le Seigneur de tous les mondes. Subhanahu wa ta'ala, ça c'est une perfection d'Allah. Il nous dit aussi Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a fait des anges des messagers. Ces choses-là sont des perfections d'Allah, dans ses noms et dans ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Et dans d'autres passages, il se loue ou il nous enseigne sa louange pour les bienfaits. Par exemple, il nous dit Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre, le Coran, qui est un des plus grands bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ne contient aucune tortuosité. Il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah, azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akla fa yahmadahu 'alayha. Allah est satisfait de son serviteur qui, après avoir avalé une bouchée, prononce sa louange. Une bouchée. C'est le bienfait d'Allah, de la subsistance, de la nourriture. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit après avoir loué Allah par toutes ses louanges desquelles il est digne, subhanahu wa ta'ala, pour sa perfection et pour tous ses bienfaits, et après avoir prié sur son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Certes, Allah nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dans le deuxième verset de Surat Al-Ma'idah, la table servie, la Surat numéro 5 du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal nous dit, d'après le sens rapproché bien sûr du verset, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ فَإِنَّ كُلَّ عَبْدٍ لَا يَنْفَكُ عَنْ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَهَذَيْنِ الْوَاجِبَيْنِ وَاجِبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَوَاجِبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ. Ce verset précité réunit en lui tous les intérêts des serviteurs dans leur vie d'ici-bas et le jour de la résurrection, dans les relations entre eux les uns les autres, et dans leur relation entre eux et leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, chaque serviteur ne peut jamais se détacher de ces deux situations, de ces deux devoirs que sont le devoir dans sa relation entre lui et Allah, et le devoir dans sa relation entre lui et les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce verset que l'on va étudier, incha'Allah, a réuni en lui, nous dit l'auteur, tous les intérêts de la personne. Tant bien les intérêts mondains que ses intérêts de l'au-delà. Ses intérêts en rapport avec sa relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, de même que les intérêts en relation avec son rapport avec les autres parmi les gens. Car nous avons un devoir de relation envers Allah et un devoir de relation envers les autres. Et lorsque vous lisez les écrits où les comportements nous sont prescrits et les mauvais interdits, lorsque vous méditez dans les versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou dans les hadiths, vous voyez que beaucoup de transactions sont illicites. Des formes d'injustice ont été interdites. Il s'agit ici de notre relation avec autrui. Tout comme vous voyez que le polythéisme a été interdit. C'est notre relation vers Allah. On ne doit pas la souiller en invoquant un autre que lui. Donc, dans les textes du Coran et de la Sunna, on nous appelle à entretenir notre relation avec Allah Azza wa Jal et notre relation vers les gens. Dans ce verset-là, où Allah nous ordonne de nous entraider dans le bien et la piété et de ne pas nous entraider dans le péché et la transgression, il s'agit ici de notre relation avec les autres parmi les gens. Et la suite du verset, Wattaqullah, et craignez Allah, c'est notre relation envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'on ne peut jamais se détacher de ces deux situations, de ces deux devoirs qui nous incombent. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit, فَأَمَّا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ وَالْمُعَاوَنَةِ وَالصُّحْبَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا أَنْ يَكُونَ اجْتِمَاعُهُمْ بِهِمْ وَصُحْبَتُهُمْ لَهُمْ تَعَاوُنًا عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ الَّتِي هِيَ غَايَةُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ وَفَلَاحِهِ وَلَا سَعَادَةَ لَهُ إِلَّا بِهَا. Quant à ce qu'il y a entre les créatures comme relations, les fréquentations, l'entraide, le devoir dans cela est que l'union de ces gens, leur fréquentation, doit être basée sur l'entraide dans ce qui satisfait Allah et dans ce qui est une obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car, nous dit-il, cette obéissance, c'est la réussite et la félicité du serviteur. Et il n'y a de réussite ou de félicité pour la personne qu'à travers cette dernière. Personne ne peut être heureux sans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, personne ne peut être heureux s'il n'obéit pas à Allah, s'il n'est pas soumis à ses ordres, s'il n'est pas un serviteur esclave volontaire de plein gré à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Vous n'avez qu'à regarder les gens et leur façon de vivre pour voir le résultat trouvé par ceux qui ont été des serviteurs d'Allah et ceux qui ne l'ont pas été et qui ont été serviteurs de leurs péchés, de leurs passions, de ce bas monde, de l'argent, de toutes les choses futiles et mondaines. L'auteur, rahimahullah, nous dit « وَهِيَ الْبِرُّ وَالتَّقْوَى اللذان هما جماع الدين كله. Il s'agit de ces deux choses appelées al-birr et al-taqwa en arabe. Je répète, ces deux choses sont appelées al-birr et al-taqwa. C'est ce que l'on a traduit qu'approximativement par la bonté et la piété. Mais là, nous allons voir l'essence de ces mots en détail. Et c'est ce dans quoi Allah nous a ordonné, subhanahu wa ta'ala, de s'entraider ces deux choses-là que sont al-birr et al-taqwa. Il nous dit, rahimahullah, que ces choses-là, al-birr wa al-taqwa, réunissent toute la religion. C'est la base de toute la religion, comme vous allez le voir. Wa idha ufrida kullu wahidin min al-ismaini dakhala fihi al-musamma al-akhar. إما تضمنا وإما لزوما ودخوله فيه تضمنا أظهر لأن البر جزء مسمى التقوى وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. C'est-à-dire que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous explique que ces deux termes, al-birr wa taqwa, que l'on a traduit qu'approximativement par la bonté et la piété, font partie de ces divers termes religieux se ressemblant, mais qui s'assemblent quand ils se séparent et se séparent quand ils s'assemblent. C'est-à-dire que quand ces deux termes sont réunis dans une phrase, dans un texte du Coran et de la Sunna, chacun se sépare de l'autre pour prendre un sens qui lui est propre. Mais lorsque l'un est cité individuellement en dehors de l'autre, il prendra son sens et le sens de l'autre. Vous comprenez? Imaginez-vous que je vous dise le jour et la nuit. Ce sont deux termes, n'est-ce pas? Je vous dirai que si je vous dis le jour de manière seule, vous comprendrez que je vous parle de 24 heures, une journée, qui contient donc la nuit aussi, n'est-ce pas? Parce que je dis j'ai passé un jour dans tel endroit, je dis certes le mot jour, mais il a englobé la nuit avec, n'est-ce pas? Si je dis le jour et la nuit, je réunis les deux mots. Vous avez compris qu'avec le mot jour, je n'ai voulu que la journée. Et avec le mot nuit, je n'ai voulu que la nuit. Il y a des termes dans le Coran et la Sunna qui, quand ils se rassemblent, ils sont cités ensemble, chacun prend un sens. Lorsqu'ils sont cités séparément, chacun prend les deux sens, le sien et celui de l'autre. À l'image des exemples que va donner l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Mais ici, d'abord, il nous dit que ces deux termes, lorsqu'ils sont cités séparément, ils se réunissent dans le sens. Lorsqu'ils sont réunis dans le texte, ils sont séparés dans le sens. Vous avez compris ce que cela veut dire. Et il nous donne des exemples. وَنَظِيرُ هَذَا لَفْظُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. À titre d'exemple, le mot « iman » et le mot « islam ». Lorsque l'on voit dans les textes « al-iman » ou « al-islam » uniquement, le terme prend son sens et le sens du second. Donc « islam » veut dire « islam » et « iman » et « iman » veut dire « iman » et « islam ». Mais quand ils se séparent, quand ils se réunissent dans un texte, on sait que quand on dit islam, on parle des cinq piliers de l'islam uniquement. L'attestation de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Et quand on dit l'iman, on parle des piliers de la foi qui ne sont pas apparents. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc quand on les cite ensemble, l'islam prend ses cinq piliers, la foi prend ses cinq piliers, l'iman. Mais quand on les sépare, et qu'on dit islam, ça veut dire les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi. Et quand on dit le mot iman, ça veut dire les six piliers de la foi et les cinq piliers de l'islam avec. Vous comprenez? Il nous dit wal iman wal amal as-salih. On voit aussi al iman et al amal as-salih. La foi et les bonnes actions. Des fois dans des textes, tu trouves la foi. Quand la foi est citée, elle englobe les bonnes actions. Tu trouves dans d'autres textes les bonnes actions. Quand la bonne action est citée, elle englobe la foi. Dans d'autres textes, tu trouves la foi et les bonnes actions. À ce moment-là, la foi prend un sens propre et les bonnes actions prennent un sens propre. C'est ça qui est voulu. Il dit « al-faqir » ou « al-miskin » comme ces deux termes, « al-faqir » et « al-miskin » les deux qui désignent le pauvre seulement. Si je dis al-faqir seul, ça prend le sens du terme faqir et du terme miskin. Si je dis al-miskin de façon seule, il en est de même. Par contre, si tu vois dans les textes le mot faqir accompagné du mot miskin, pardon, il y aura une différence entre les deux. C'est que le faqir, c'est celui qui n'a rien du tout et le miskin, c'est celui qui n'a pas assez. Comprenez? Alors que si je dis simplement « miskin », ça englobe celui qui n'a rien du tout et celui qui n'a pas assez. Si je dis simplement le mot « faqir » ou si je le trouve dans les textes, ça englobe celui qui n'a pas assez ou celui qui n'a rien du tout. Mais quand je vois « miskin » avec « faqir » cités ensemble, je sais que « miskin » veut dire celui qui n'a pas assez et « faqir » celui qui n'a rien. « Wal-fusuq wal-isyan » comme la perversion et la désobéissance. Il en est de même pour ces mots. Chacun va prendre un sens s'ils sont réunis, et chacun prend le sens de l'autre s'ils sont séparés dans les textes. Wal munkar wal fahisha, le blâmable et les turpitudes, wa nadha'iruhu kathira, Et il y a plein d'autres mots dans ce genre qui sont dans les textes du Coran et de la Sunna. Il nous dit ensuite: وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره وهو البر والتقوى. Cette règle là qui est quand ils s'assemblent ils se séparent et quand ils séparent ils s'assemblent, c'est-à-dire quand ils s'assemblent dans le texte ils se séparent dans le sens, et quand ils se séparent dans le texte ils se rassemblent dans le sens. Ça c'est une règle. Vous devez comprendre ce que je veux dire cette règle. Cette règle là est très importante, nous dit l'auteur, rahimahullah. Quiconque l'a cernée, beaucoup d'ambiguïtés seront dissipées de son esprit, car il comprendra, comme certains qui peuvent croire qu'il y a des contradictions ou d'autres choses de cet ordre dans le Coran, parce qu'ils ne connaissent pas ce genre de règles. Celui qui connaît cette règle, beaucoup d'ambiguïtés seront dissipées et enlevées de son esprit. Il nous dit, et nous allons donner en exemple ici, les deux termes, al-birru wa taqwa, qui sont les termes cités dans le verset. Ces deux choses dans lesquelles nous avons l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous entraider. Il nous dit, فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْبِرِّ هُوَ الْكَمَالُ الْمَطْلُوبُ مِنَ الشَّيْءِ وَالْمَنَافِعُ الَّتِي فِيهِ وَالْخَيْرِ الَّتِي فِيهِ الخير كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. La réalité du terme al-bir en langue arabe, c'est quelque chose qui réunit tout le bien et les utilités. Le mot al-bir, c'est quelque chose de manière globale et générale qui réunit tout le bien et les utilités. Cette notion de base, ce sens de base, c'est celui que l'on retrouve de tous les dérivés arabes de ces lettres-là, bir, ou de ce mot-là, si vous voulez, pour vous faciliter. Il nous dit, par exemple, al-bur, al-bur. Ce que l'on appelle al-bur, c'est le blé. Le blé a été appelé al-bur. Le blé, n'est-ce pas que c'est un grand bien? C'est avec le blé que l'on va faire toutes ces nourritures diverses et variées, le pain et bien d'autres choses encore, qui sont des aliments de base dont tout le monde a besoin, n'est-ce pas? Donc il y a un grand bien dans le blé. Vous remarquez que le mot al-bur ressemble au mot al-bir. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent dans la notion de base qu'ils ont, qui est le bien. Il nous dit لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. On l'a appelé de cette façon car il contient un très grand bien et un grand nombre d'utilités comparé aux autres graines qui sont semées. ومنه رجل بار وبر. De même, lorsqu'on dit de quelqu'un qui est bon et qui est pieux, رجل بار ou بر. Isa alayhi salam a dit, alors qu'il était en bas âge, bébé, wa barran biwalidati. Allah m'a rendu barran envers ma mère, c'est-à-dire bon, plein de bonté envers elle, bon comportement, obéissant, attentionné, respectueux, et tout le bien que il avait alayhi salam. Également, on voit dans le Coran kiramim barara. Quand on voit qu'Allah Azza wa Jal a décrit les anges, il les a décrits comme étant kiram, noble, barara, bon. Dans barara, nous retrouvons les mêmes lettres que celles retrouvées dans al-bir. Également al-abrar. Quand Allah Azza wa Jal dit innal abrar la fi na'im. Certes, ceux qui sont appelés al-abrar seront dans les délices, en parlant des gens pieux. Ils seront dans les délices du paradis sous l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْبِرُّ كَلِمَةٌ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ وَالْكَمَالِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْعَبْدِ. Ainsi, nous comprenons que le terme al-bir qui est une des deux choses dans lesquelles Allah Azza wa Jal nous ordonne l'entraide entre nous, est un terme réunissant en lui tout le bien demandé au serviteur. وَفِي مُقَابَلَتِهِ الْإِثْمِ et vient s'opposer à lui le terme الْإِثْمِ qui est le péché. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى entraidez-vous dans الْبِرِّ et التَّقْوَى et ne vous entraidez pas dans الْإِثْمِ et الْعُدْوَانِ. Donc, il y a deux choses et leur contraire. La première, c'est al-birr. Son contraire, c'est al-ithm. Al-birr, c'est tout le bien demandé à la personne. Et al-ithm, c'est tout son contraire, justement. Wa fi hadith al-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala lah, jita tas'alu anil birr wal-ithm, fal-ithmu kalimatun jami'atun li-sharri wal-uyub allati yudhammu al-abdu alayha. L'auteur nous dit dans le hadith rapporté par le compagnon An-Nawas ibn Sam'an, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Tu es venu m'interroger sur al-birr, sur la bonté, wal-ithm et les péchés. Tu veux connaître et approfondir tes connaissances sur ces deux choses-là et savoir leur définition et ce qu'elles représentent. » Donc ces deux choses ont été citées dans le hadith. Si ce n'est que l'auteur, rahimahullah, a cité que ce récit est celui rapporté par le compagnon An-Nawas ibn Sam'an. Or, la réalité est que ce récit est celui d'un autre compagnon, le dénommé Wa'bisatu ibn Ma'bad, qu'Allah l'agrée, à qui le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, tu es venu m'interroger sur al-birr wal-ithm. Lors de la venue de ce compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu es venu m'interroger sur cette chose et celle-là. » Et l'autre hadith, donc celui-ci, c'est le hadith de Wa'bisat ibn Ma'bad. Quant au hadith de An-Nawas ibn Sam'an, l'autre compagnon, il dit « Sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil birri wal ithm » J'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur al-birr et al-ithm. Al-birr, la bonté, et al-ithm, les péchés. Faqal, le prophète m'a répondu, al-birru husn al-khuluq. Al-birr, c'est le bon comportement. Tu vois que cette réponse est une parole bénie du prophète alayhi salatu wa sallam, car le bon comportement implique le bon comportement envers Allah et le bon comportement envers les gens. Le bon comportement envers Allah Azza wa Jal qui se manifeste par l'application du tawhid et de l'adoration d'Allah seul, par le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bon comportement envers le messager en suivant sa sunna et en rejetant toute forme d'innovation, et ensuite le comportement envers les gens. Donc al-birr, c'est une parole globale qui réunit tout le bien. Et quant au péché, il s'agit de ce qui te dérange dans ta poitrine. Le péché est toujours dérangeant dans la personne. Et c'est ce que tu détesterais que les gens voient. Ensuite, l'auteur rahimahullah dit, quant au mot al-ithm, le péché, c'est un mot aussi qui réunit tout le mal et tous les défauts pour lesquels le serviteur est blâmé. فَيَدْخُلُ فِي مُسَمَّ الْبِرِّ الْإِيمَانُ وَأَجْزَاؤُهُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ لَا رَيْبَ أَنَّ التَّقْوَى جُزْءُ هَذَا الْمَعْنَى وَأَكْثَرُ مَا يُعَبَّرُ بِالْبِرِّ عَنْ بِرِّ الْقَلْبِ وَهُوَ وُجُودُ طَعْمِ الْإِيمَانِ فِيهِ وَحَلَاوَتِهِ وَمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ مِنْ طُمَأْنِينَتِهِ وَسَلَامَتِهِ وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. L'auteur rahimahullah nous dit que dans le terme al-birr, la foi entre al-iman, entre dans le terme al-bir avec toutes ses parties, qu'elles soient apparentes et cachées. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses prophètes, au jour dernier, au destin, à la résurrection, la croyance au nom, aux attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'amour d'Allah, l'espoir en la miséricorde d'Allah, la confiance en Allah, la bonne opinion d'Allah, la véracité envers Allah, la sincérité, tout cela fait partie des aspects qui ne sont pas apparents physiquement de la foi et qui font partie de Al-Bir, cette chose-là dans laquelle Allah nous ordonne de s'entraider. Et c'est ça, cela fait partie justement de la taqwa qu'il va détailler après, qui est la piété. Et très souvent, la plupart du temps, quand on cite le mot Al-Bir, on parle de Al-Bir du qalb, la bonté du cœur, qui consiste à ressentir la saveur de la foi et tout ce qui en découle comme quiétude, comme épanouissement et comme joie éprouvée pour la foi. Car certes, nous dit l'auteur, rahimahullah, la foi a une saveur, a un délice dans le cœur. Quiconque n'y goûte pas à cette saveur aura alors soit perdu la foi totalement, ou aura alors une grande défaillance dans sa foi. Il nous a donc montré que le mot al-bir est un mot général qui englobe beaucoup de choses. De ce point de vue-là, le deuxième mot qui est at-taqwa, qui est la piété, forcément entre dans la définition de al-bir. Du fait que le mot al-bir, cette chose dans laquelle Allah nous a ordonné l'entraide, subhanahu wa ta'ala, est une chose qui, comment dirais-je, est une chose qui regroupe tout ce qui est bien et tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous parle de la saveur de la foi retrouvée par le croyant dans sa poitrine et dans son cœur. La base de al-bir dans laquelle Allah nous ordonne de s'entraider subhanahu wa ta'ala, c'est la croyance authentique. Il ne peut pas y avoir de al-bir, de bonté, sans avoir une bonne croyance. Pour cela, la personne qui n'a pas une bonne croyance authentique, rien n'est accepté d'elle. Allah Azza wa Jalla a dit « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا » Et nous avons amené tout ce qu'ils ont avancé comme action, les polythéistes le jour dernier, qui avaient fait des bonnes actions apparentes dans ce bas monde, ils ont nourri des pauvres, aidé le besogneux, ils ont rendu service à autrui. Allah amène toutes ces actions le jour dernier. Et qu'est-ce qu'il va faire ? فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et on les réduira en poussière éparpillée. Elles ne seront pas acceptées d'Allah. Car il n'y a de bonté que s'il y a une bonne croyance. Et ça te montre que ceux qui disent que c'est le bon comportement, d'abord avant tout, n'ont pas compris la réalité des textes. Avant tout, c'est la bonne croyance envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de cette bonne croyance, le bon comportement doit découler sans le moindre doute. Mais c'est la croyance qui passe avant tout, et la croyance est la base de la piété, et la base de la bonté. Il n'y a de bonté ni de piété que s'il y a une bonne croyance au préalable. Celui qui associe Allah, subhanahu wa ta'ala, quelle bonté a-t-il? Quelle piété a-t-il? Alors qu'il voue l'adoration à autre que celui qui lui a octroyé sa subsistance et qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Et quiconque rejette la foi, toutes ses actions deviendront vaines. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Donc même s'il a fait des bonnes actions, même s'il a aidé, même s'il a partagé, il n'est pas accepté chez Allah, il n'est pas considéré comme « bar », comme quelqu'un de bon, du fait qu'il n'a pas eu la base de la piété qui est la croyance saine, la croyance authentique. On comprend donc que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'ordre de s'entraider dans le bien. Et l'on ne peut s'entraider dans le bien que si l'on a une croyance authentique. Ainsi, s'asseoir pour apprendre la croyance authentique est la base même de l'entraide dans le bien. Ces assises, mes frères, où vous assistez, ou que vous écoutez, sont la base de l'entraide dans le bien, puisqu'on y enseigne ou on y apprend à avoir la bonne croyance vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette bonne croyance qui te permettra par la suite de mettre en pratique cette bonté pour laquelle Allah nous ordonne de s'entraider, subhanahu wa ta'ala. L'entraide commence donc par s'entraider à corriger notre croyance. L'auteur, rahimahullah, nous dit « فَهَاُولَئِ عَلَى أَصَحِ قَوْلَيْنِ الْقَوْلَيْنِ مُسْلِمُونَ غَيْرُ » Non, je n'ai pas lu le verset, pardon. « وَهُمْ مِنَ الْقِسْمِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ » Celui qui n'a pas trouvé la foi, la saveur de la foi, soit ne l'a pas du tout, soit a une grande défaillance dans sa foi. Il nous dit, et il fait partie de ces gens au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens rapproché du verset bien sûr, les bédouins dirent, nous avons eu la foi, nous avons cru. Dis, c'est-à-dire réponds-leur, vous n'avez pas encore eu la foi, vous n'avez pas eu la foi. Mais vous vous êtes soumis et la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, d'après les deux avis dans l'explication de ce verset, d'après l'avis prépondérant des deux avis, ces gens-là sont des musulmans. Il ne s'agit pas dans ce verset de gens qui étaient hypocrites. Il s'agissait de musulmans mais qui ne sont pas encore croyants. Qu'est-ce que cela veut dire? Souvenez-vous mes frères, que les deux termes que sont l'islam ou l'iman, sont l'islam et la foi, sont des termes se séparant dans le sens quand ils se réunissent dans les textes et se réunissant dans le sens quand ils se séparent dans les textes. À titre d'exemple, ici, nous les voyons dans ce verset cité ensemble. Les bédouins dirent, nous avons eu la foi. Dis-leur, vous n'avez pas eu la foi, mais vous vous êtes soumis, mais vous avez eu l'islam. Donc là, on voit qu'il y a une différence. Ici, il s'agit de l'islam, par l'islam, pardon, des actes apparents. Vous avez attesté que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration et que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous acquittez des devoirs apparents. Quant à la foi et ce qui vous est demandé intérieurement, vous ne l'avez pas encore atteint. Car ces gens-là étaient fraîchement convertis à l'islam. Donc ils avaient les actes apparents, mais peut-être que les actes intérieurs qui sont dans la définition de la foi, n'étaient pas encore atteints comme il se doit. Ainsi Allah Azza wa Jalla a dit à ces gens, a dit au prophète alayhi salatu wasalam, de leur dire, vous n'avez pas encore eu la foi, la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. L'imam rahimahullah dit, wa laysu bi mu'minin, ces gens-là étaient musulmans, ils ne sont pas hypocrites, et ils ne sont pas non plus croyants, c'est-à-dire dans le sens de ce qu'il y a à l'intérieur. إِذْ لَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ فَيُبَاشِرَهَا حَقِيقَتُهُ. Car la foi n'a pas encore pénétré leur cœur de telle sorte à ce qu'ils en ressentent la réalité. C'est ça qui est voulu dans le verset. وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى خِصَالَ الْبِرِّ فِي قَوْلِهِ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce magnifique verset de Surat al-Baqarah, d'après le sens rapproché du verset, Al-Bir, qu'on a traduit par la bonté pieuse, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse, ou alors Al-Bir, est d'avoir foi en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. On a parlé ici des actions antérieures, n'est-ce pas? C'est la foi. C'est la base même de l'bir, de la bonté pour laquelle Allah nous ordonne de s'entraider. Il nous dit, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, ensuite, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues, d'accomplir, délier les joues, c'est-à-dire affranchir les esclaves, d'accomplir la salat et d'acquitter, de s'acquitter de l'aumône, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ce verset a réuni la base de Al-Bir et ses branches qui en découlent. La base, c'est la croyance saine. Quelles sont les branches qui découlent de cette croyance saine? Les bonnes actions, dont celles qui ont été citées dans ce verset. L'on voit donc que dans la foi, il y a une base et des branches. La base qui a été citée, on voit les piliers de la foi. Il dit que la bonté pieuse ne consiste pas seulement à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse consiste à la foi en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes. Il y a 5 piliers de la foi qui sont cités ici. Et en réalité, ce sont les 6 qui sont cités. Le 6e, qui est la croyance au destin, entre dans la foi en Allah. Quand vous voyez ces 5 piliers cités, sans le pilier de la foi au destin, sachez qu'il est cité de manière sous-entendue dans le sens où il fait partie des composantes de la foi en Allah. Car celui qui ne croit pas qu'Allah a destiné ne croit pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, dans ce verset, on voit les 6 piliers de la foi. Et les 6 piliers de la foi ont été cités comme étant les bases de la bonté pieuse al-bir. Après avoir eu cette base, ce sont des bonnes actions qui nous sont citées. Et l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah dit, فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْبِرَّ هُوَ الْإِيمَانُ بِهِ وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. Allah subhanahu wa ta'ala a informé que al-bir, la bonté pieuse, c'est la foi en lui, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. Ces 5 fondements sont les fondements de la foi sans lesquels la foi ne peut tenir. Donc, vous comprenez que quand il dit ces 5 fondements, quand il ne cite pas la foi au destin, c'est qu'elle entre dans la foi en Allah. Donc, il n'y a pas de contradiction dans cela. وَأَنَّهُ الشَّرَائِعُ الظَّاهِرَةِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَأَنَّهُ الْأَعْمَالُ الْقَلْبِيَّةِ الَّتِي هِيَ حَقَائِقُهُ مِنَ الصَّبْرِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ. On voit aussi dans ce verset que la bonté pieuse, c'est la foi en Allah, Azza wa Jal, aux anges, aux livres, aux messagers, aux jours derniers. Et sans cela, il n'y a pas de foi. Mais la bonté pieuse, c'est aussi les actions apparentes, comme la prière, s'acquitter de l'aumône et les dépenses obligatoires. Tout comme l'on voit que la bonté pieuse, al-bir, cette chose dans laquelle Allah nous ordonne de s'entraider, réunit aussi les actions du cœur, comme la patience, comme la loyauté devant les engagements. Et c'est ce que l'on retrouve dans ce verset, où Allah Azzawajal parle des gens qui sont endurants dans la misère, dans la maladie, où il parle aussi, subhanahu wa ta'ala, des véridiques, des vrais pieux. Donc on nous parle de la croyance, des bonnes actions et des actions du cœur aussi. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه، والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب، وأصول الإيمان الخمس. Ainsi, toutes ces choses citées dans ce verset de Sourate al-Baqarah, le verset 177, toutes ces choses réunissent toutes les parties de la religion, toutes les réalités de la religion d'Allah. Les actions physiques, les actions du cœur et les fondements de la foi. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Et après avoir parlé de tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cela fait partie de la piété de at-taqwa, cette deuxième chose pour laquelle Allah azza wa jalla nous ordonne l'entraide, subhanahu wa ta'ala, en nous disant à la fin du verset: les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Et ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va détailler le sens du terme at-taqwa, et c'est ce qui fera l'objet de notre deuxième assise. Inch'Allah ta'ala, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.